La Voix Royale par André Malraux. Quatrième cassette, deuxième face, page 142. Maintenant que son énergie ne s'appliquait plus, Perken retombait sur lui-même. À peine sentait-il qu'il avait retrouvé sa vie. Lorsqu'il avait risqué torture et déchéance en craignant de n'y pouvoir résister, il avait été à tel point arraché à lui-même qu'il ne se sentait plus en face que d'une vie de brouillard. Qu'y avait-il de réel dans cette rumeur qui montait et descendait avec la flamme? Dans ce conciliabule de fou au centre de cet implacable écrasement de la forêt et de la nuit? Avec la fièvre, la haine de l'homme l'envahissait, la haine de la vie, la haine de toutes ces forces qui maintenant le reconquéraient, chassait peu à peu ses souvenirs atroces comme ceux d'une extase. Il avait cessé de se sentir prisonnier, bien qu'il écoutât sa blessure, ses élancements, sa fièvre, plus que sa pensée. Mais la chaleur de bain qui sortait de ses joues et de ses tempes désagrégeait tout ce qui venait des hommes. Les moilles ne bougeaient plus. Depuis que les éclats du foyer rayaient chaque fois les mêmes lances plantées en terre, lissaient les mêmes bras brillants de sueur, la rumeur passait sur l'assemblée presque toute perdue dans l'ombre, comme un bruissement d'insectes sur des momies accroupies. Lorsque s'abaissait le bûcher, les ténèbres revenaient battre ses épaves avec un ressac d'où surgissaient les lances en désordre. La fièvre qui montait toujours leur donnait une immobilité minérale. La nuit se soulevait à l'assaut de cette sauvagerie décomposée, la recouvrait comme la forêt avait recouvert les temples, puis sa vague s'effondrait et les têtes paraissaient avec les points fixes et rouges de leurs yeux qui reflétaient le feu jusqu'aux profondeurs de l'obscurité. L'aube. Une motte de terre écrasa la dernière flamme du bûcher. L'interprète vint s'accroupir à côté de Perken. Vous choisirez l'endroit et le jour. Serment ? Serment. Il transmit le dialogue en hurlant. Un à un, les moilles se levèrent, débris d'un naufrage dans le petit jour blême et froid. Leur masse ondula comme une vache, se désagrégea enfin. Plusieurs urinaient, immobiles. Tu crois au serment, Perken ? Attends. Il faudrait aller chercher les cartouches qui sont dans mon ancienne gaine, dans la première charrette, sous la veste, et mon colt. Où ? Je ne sais pas. Entre la case et ici. Heureusement, il était tombé sur la tache sans herbe où Claude le découvrit aussitôt. Dès qu'il l'eut pris, preuve de paix, un homme habillé sortit de leur case, Xa. Tous deux allèrent aux charrettes. Xa sortit la gaine, puis revint vers Perken. Grabeau, demanda celui-ci. Le boy écarta les mains. Maintenant, dormir. Les anciens s'étaient accroupis sous le gour. Un esclave apportait les jarres d'alcool. Perken se leva, appuyé sur Claude qu'inquiétait le creux et le frémissement de ses joues non rasées. Il se mordait profondément pour ne pas grimacer de douleur. Le chef but, tendit le bambou. Perken approcha sa tête, s'arrêta. Tous le regardaient. Qu'as-tu ? Demanda Claude. Attends. Refuser le serment ? Les moilles guettaient du chef un signal. Perken avait levé la main gauche pour appeler l'attention. Il tira le colt de sa gaine, dit à l'interprète « Regardez le gore » et visa. Le point de mire tremblait, la fièvre sa blessure. Pourvu que la rosée de la nuit n'eût pas enrayé l'arme, elle était graissée. Tous les regards montaient dans le prime matin vers l'os, poli par le soleil et les fourmis. Perken tira. Une tache de sang s'écrasa entre les deux cornes, s'agrandit du centre vers les bords, une rigole rouge hésita, descendit soudain vers le nez, s'arrêta au bord, tomba enfin goutte à goutte. Le chef tendit avec crainte sa main. Une goutte là-haut restait immobile, suspendue. Elle tomba sur son doigt. Il la lécha aussitôt, dit une phrase qui ramena tous les regards vers la terre, prisonniers d'une inquiétude nouvelle. « Du sang d'homme ?» demanda l'interprète. « Oui. » Claude attendait que Perken s'expliquât, et Perken regardait les molles. Les épaules en avant, tout le corps affaissé et tendu à la fois, ils se rapprochaient les uns des autres. De seconde en seconde, comme un fuyard, un regard quittait le groupe, atteignait le crâne et retombait, furtif. Sous cette chasse constante des yeux, sous cette angoisse, il semblait que la tâche continuât à s'étendre. Au bord supérieur, le sang séchait. Mais une autre rigole descendit vers le sol avec un zigzag mou. Ce sang en mouvement, avec ses rigoles comme des pattes, vivait ainsi qu'un gros insecte, marquant l'os bleuâtre dans la lumière comme un signe de possession. De sa main, où sa langue avait étalé les gouttes de sang, le chef indiquait le bambou. Perken but. Claude avait espéré quelque soudaine adoration. « Ils sont trop familiers avec le surnaturel, » dit Perken. « Ils me regardent comme des blancs regarderaient le possesseur d'un fusil extraordinaire et me craignent de la même façon. Ce que nous y gagnons de plus clair, c'est de donner au serment du riz une valeur absolue. » Claude buvait à son tour. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?»« J'ai rempli une de mes balles creuses avec le sang de mon genou. » Le chef se leva. Xa alla atteler des charrettes. Perken et Claude retournèrent à la case où était resté Grabeau. Il était entendu sur le côté, le bras allongé, la main entrouverte, il dormait. Perken l'éveilla, lui annonça l'entente passée avec les molles. Assis maintenant, la tête molle sur les épaules, il ne répondait pas. À demi endormi encore, ou hostile. « Je suis sûr qu'ils ne trahiront pas le serment du riz maintenant, » dit Perken. Grabeau ouvrit la main sans répondre. Claude détourna les yeux. Xa avançait avec les charrettes, le dernier guide à côté de lui. Il avait pu atteler aussi vite qu'à l'ordinaire, car rien n'avait été pillé. Et cette reprise du cours des choses, cet évanouissement de la tragédie de la nuit, tombait sur Claude comme la conscience de son propre néant. Sous le gore, un grand vide s'était fait. À l'extrémité des deux rigoles noires, sur le bord dentelé de l'os, une goutte de sang où brillait le soleil se coagulait. Chapitre 5, page 146. Le guide montra le village siamois de sa lance. 300 mètres plus bas, sur une tache de la forêt, près de quelques bananiers, des paillotes serrées, avec leur éternel aspect de bête des bois. Jusqu'à l'horizon, les lignes décroissantes, presque parallèles des collines. Le Siam. Le guide planta sa lance en terre pour marquer le lieu de l'échange. C'est bien choisi, dit Claude. Il domine tous les sentiers qui mènent vers lui. Perken, couché sur une charrette dont Xa avait enlevé le toit comme sur un brancard, se souleva. C'est un pauvre idiot. Si le Siam veut agir, il ne le fera qu'après l'échange. Il ne sera pas difficile de faire suivre les charrettes chargées de jarres. Celui qui aura suivi ensuite guidera la colonne. Le Moï tenait toujours la lance. Enfin, il fut certain que les Blancs l'avaient compris. Il se retourna et repartit en arrière, lentement d'abord, en courant ensuite, avec une maladresse d'animal chassé. Il n'entendait plus sa marche, mais sentait encore sa présence. Il remontait vers la sauvagerie comme une barque vers un vaisseau. Seuls, avec leurs charrettes, avec leurs pierres, seuls avec ce sentier qui les poussait vers le village dont les toits scintillaient au-delà du gouffre de lumière. Quelques villageois parlaient siamois. Perken choisit des conducteurs et de jour en jour, la marche reprit avec des relais au village, comme au Cambodge. Plus rapide, mais rythmée par le battement du sang dans la jambe qui enflait davantage chaque jour, dans le genou qui devenait de plus en plus rouge. Perken mangeait à peine, ne se levait plus que contraint. Le soir, la fièvre montait. Enfin parurent les cornes et les hautes cloches blanches d'une pagode, toutes bleues dans la lumière tropicale, le premier gros bourg siamois. Dès l'arrivée au bungalow, Xa se renseigna. Il y avait là un jeune médecin indigène qui avait fait ses études à Singapour et habitait Bangkok d'ordinaire, et un médecin anglais en tournée pour 2 jours encore. Il mange chez le chinois. Il était à peine midi. Claude courut à la gargote chinoise. Sous un panka, P-A-N-K-A, c'est une espèce de drap qu'on fait remuer, qui est accroché en dessous du plafond et qui sert de ventilateur. Devant des murs de nattes lépreuses, tendus d'énormes réclames de cigarettes entre des sodas et des bocaux verdâtres, un dos de toile blanche, des cheveux blancs. « Docteur ?» L'homme se retourna lentement, des haricots germés à l'extrémité de ses baguettes, le visage presque aussi blanc que les cheveux. Il regardait Claude, à la fois excédé et résigné. « Qu'est-ce encore ?» Un Blanc blessé, gravement, la plaie est envenimée. Le vieillard haussa lentement les épaules et se remit à manger. Claude, après une minute, se décida à poser les poings sur la table. Le médecin leva les yeux. « Vous pourriez me laisser achever mon repas, non ?» Claude hésita. « Vais-je lui flanquer une paire de claques ?» C'était le seul médecin européen. Il s'assit à la table voisine, entre l'homme et la porte. Entendu aurait été une réponse plus courte. Achevé. Enfin, le médecin se leva. Où l'a-t-on mis ? Où a-t-on eu encore la bêtise de le mettre, signifiait voix et visage. Au bungalow. Allons. Le soleil. Dès qu'il fut dans la chambre, il s'assit sur le lit et ouvrit son couteau pour fendre la toile de la culotte. Mais l'enflure était déjà telle que Perken l'avait fendue lui-même sur le côté. Le médecin tira l'étoffe brutalement, mais ses gestes changèrent dès qu'il commença à palper. Le gros point noir froncé de la blessure semblait sans rapport avec ce genou énorme et rouge. « Vous ne pouvez pas plier la jambe, n'est-ce pas ?»«
Non. »«
Vous avez reçu une flèche tombée sur une pointe de guerre. »« Il y a combien de temps ?»«
5 jours. »«
C'est mauvais. » »« Les Stiengs n'empoisonnent jamais leur pointe. »« Si la pointe avait été empoisonnée, vous seriez mort à l'heure qu'il est. » »« Mais un homme s'empoisonne très bien tout seul. »« Admirablement fabriqué pour ça. » J'ai mis de la teinture d'iode, quoique pas tout de suite. Sur une plaie aussi pénétrante, c'est comme si vous chantiez. Il palpait doucement le genou luisant, d'une telle sensibilité au toucher qu'il semblait élastique à Perken. Dur. La rotule ballotte. Donnez le thermomètre. 38,8. Et la température monte le soir, bien entendu. Vous ne mangez presque plus?
Non.
Chez les Stiengs. Il haussa encore les épaules et parut réfléchir, puis il regarda de nouveau Perken avec rancune. Vous ne pouviez pas vous tenir tranquille? Perken considérait son teint très blanc. Quand un opiomane me parle de tranquillité, je l'envoie toujours s'étendre. Si c'est l'heure de votre pipe, allez fumer. Et revenez plus tard, cela vaudra mieux. Je ne vous demande pas... Vous avez entendu parler de Perken, oui? Qu'est-ce que ça veut bien vous faire? C'est moi. Ce qui veut dire que je vous conseille de faire attention. Quand on pense qu'on peut avoir la paix... Il se pencha de nouveau vers la blessure, non par obéissance, mais comme s'il eût cherché quelque chose. Il suivait sa pensée. « Bêtise, grommelait-il, bêtise !» Un mince sourire sur ses lèvres, écœuré, abaissant les commissures au lieu de les relever, s'effaça, revint. « Vous êtes Perken ?»
Non, je suis le chat de Perse.
Et cela vous paraît important, n'est-ce pas, d'avoir fait des choses dans ce pays, de vous être beaucoup remué, au lieu de rester bien tranquille, de... Est-ce que je vous demande à vous si ça vous paraît sérieux de rester bien tranquille, comme vous dites? Le sourire s'était de nouveau effacé. Eh bien, monsieur Perken, écoutez bien. Vous avez une arthrite suppurée du genou. Avant 15 jours, vous allez crever comme une bête. Et il n'y a rien à faire, comprenez-vous? Absolument rien. Le premier instinct de Perken avait été de frapper. Mais le ton était tellement plus chargé d'amertume que d'hostilité qu'il ne bougea pas. Il y discernait pourtant la haine des vieux intoxiqués pour l'action. Il faudrait tout de même trouver un médecin plus sérieux, dit Claude. Vous ne me croyez pas? Perken réfléchit. Avant de vous voir, je sentais qu'il en était peut-être ainsi. Il y a entre la mort et moi un vieux contact. Ne racontez donc pas d'histoire. Mais je me méfie. Vous avez tort. Il n'y a rien à faire. Rien. Fumez, vous aurez la paix et ne penserez pas à autre chose. L'opium est assez bon par ici. Quand la douleur se deviendra trop violente, piquez-vous. Je vous donnerai une de mes seringues. Vous n'êtes pas intoxiqué?
Non.
Naturellement. Alors, en triplant la dose au besoin, vous pourrez en finir quand vous voudrez. Je vais donner la seringue au boy. J'ai déjà été blessé par des pointes de guerre. Pas au genou. Les toxines microbiennes qui se forment là-dedans vont vous empoisonner lentement.
il n'y a qu'une solution, c'est l'amputation. Mais vous n'avez pas le temps d'arriver à une ville où l'on puisse vous amputer. Piquez-vous, pensez à autre chose, tenez-vous tranquille, ça vous changera. C'est tout. Un coup de bistouri, on n'atteindrait rien. L'infection est trop profonde et protégée par les os. Là-dessus, si le cœur vous en dit, allez chercher le siamois comme vous le propose ce petit jeune homme. Je vous préviens qu'il n'a aucune expérience clinique et c'est un indigène. Mais il doit être dans vos idées de nous préférer ces gens-là. En ce moment, beaucoup. Avant de franchir le seuil, ça à côté de lui, le médecin se retourna, regarda encore Perken et Claude. Vous n'avez rien, vous ?
Non,
parce que pendant que je suis là... Mais c'est sur Perken que son regard restait posé. À sa pesanteur, au plissement des paupières, on devinait une pensée, comme un reflet dans une glace brouillée. Enfin, il partit. Dommage qu'une paire de claques ici ait si peu de sens, dit Claude. Un joli phénomène. Je vais chercher le siamois. Tout de suite. Un médecin blanc tourné par ici est nécessairement un phénomène. Opiomane ou érotomane. Ça, va chercher le chef de poste. Tu lui donneras ceci. Il tendit une pièce administrative siamoise où seul son nom était inscrit en caractère latin. Tu lui diras que c'est Perken. Et trouve-moi des femmes pour ce soir. Quand Claude revint, le médecin indigène allait le rejoindre bientôt, le chef de poste était là. Perken et lui parlaient siamois. L'officier écoutait, répondait brièvement, prenait des notes. Il écrivit sous la dictée une dizaine de phrases. « Alors Grabeau ?» demanda Claude dès qu'il fut parti. « Nous l'aurons. Ce type pense comme moi que le gouvernement va profiter de l'occasion pour envoyer une colonne de répression et occuper tout ce qui pourra être occupé dans cette région dissidente. Bon prétexte et avantage réel. Un blanc martyrisé, les Français n'ont rien à dire, et ils pourraient trouver un jour quelques prétextes de ce genre, ce qui serait fâcheux. Les concessionnaires du chemin de fer désirent vivement l'occupation militaire. Il a pris le texte de ma dépêche, nous aurons la réponse ce soir. Si la colonne fait d'abord sauter un village, la panique va commencer dans toute la région. Claude regardait le chemin entre la natte à peine soulevée et la fenêtre sans vitre. Personne. Ce médecin siamois allait-il venir enfin ? Les palmes disparaissaient dans le ciel d'un bleu incandescent d'éclairage au mercure. Le soleil se piquait sur le sol avec une telle force que toute vie en semblait arrêtée. Ce n'était plus la transe de la forêt, mais la possession lente de la terre et des hommes par la chaleur, l'établissement d'une implacable domination. Projet, volonté se volatilisaient en elle. Au fur et à mesure qu'avec le silence retombait, elle envahissait la pièce, une autre présence montait du flamboiement du blanc du sol, des animaux endormis, de l'immobilité des deux hommes réfugiés dans cette ombre surchauffée, la mort. En face de l'anglais, Perken avait eu beaucoup plus besoin de répondre que de comprendre. Ensuite, il s'était efforcé d'agir, différant ainsi le retour de cette pensée qui l'entourait comme l'éblouissement solaire. Elle le rejoignait enfin. La tranquille affirmation du médecin ne le convainquait pas, et quoi qu'il en eût dit, ses propres sensations, maintenant qu'il s'efforçait de les saisir plus lucidement, ne le convainquaient pas davantage. Il avait l'habitude des blessures.
la fièvre, la souffrance intermittente qui lui tordait le genou, il les connaissait. C'était là, dans cette sensibilité d'abcès, dans ces réflexes de chair tuméfiée qui s'écartent nerveusement du plus léger objet qu'était son mal. Là, et non dans quelque empoisonnement du sang dont il ne souffrait pas. Seul luttait contre l'affirmation de la plaie, l'affirmation des hommes. Sur ce médecin siamois, il semblait qu'il dût conquérir la vie. À peine fut-il entré que tout cela s'effondra avec une secousse de réveil. Son indifférence professionnelle suffit à détruire ce monde de défense. Perkin se sentit brutalement séparé de son corps, de ce corps irresponsable qui voulait l'entraîner dans la mort. Le médecin défit le pansement et considéra la plaie, accroupie à la siamoise au bord du lit. Perkin énumérait les symptômes qu'il avait fait connaître au médecin anglais. Le siamois ne répondait rien, palpant toujours avec une adresse extrême. Perkin était saturé d'impatience, mais sans angoisse. De nouveau, en face d'un adversaire, cet adversaire fut-il son propre sang. Monsieur Perkin, en venant, j'ai rencontré le docteur Blackhouse, B-L-A-C-K-H-O-U-S-E. C'est un homme impur, mais c'est un médecin expérimenté. Il m'a dit, avec son mépris d'anglais, comme si j'ignorais cette maladie, que c'était une arthrite suppurée. Je la connais par les manuels, elle a été répandue pendant la guerre européenne, mais je ne l'ai pas encore rencontrée. Les symptômes sont ceux que vous présentez. Pour lutter contre une maladie infectieuse de cette nature, il faudrait pratiquer l'amputation. Mais ici, dans l'état actuel de la science, Perkin leva les mains, coupant le discours. Ce charabia d'occidentalisé lui rappela que la prudente confirmation de sa mort lui était donnée dans l'attente d'une juste rétribution. Il paya l'homme parti. Il le suivit du regard comme une preuve. Il croyait à la menace plus qu'à la mort. À la fois enchaîné à sa chair et séparé d'elle, comme ces hommes que l'on noyait après les avoir liés à des cadavres. Il était si étranger à cette mort aux aguets en lui qu'il se sentait de nouveau en face d'un combat. Mais le regard de Claude le rejeta dans son corps. Il y avait en ce regard une complicité intense où se heurtait la poignante fraternité du courage et la compassion, l'union animale des êtres devant la chair condamnée. Perkin, bien qu'il s'attachât à lui plus qu'il ne s'était attaché à aucun être, sentait sa mort comme si elle lui fût venue de lui. L'affirmation impérieuse était moins dans les paroles des médecins que dans les paupières que Claude venait instinctivement d'abaisser. L'élancement du genou revint avec un réflexe qui contracta la jambe. Un accord s'établit entre la douleur et la mort, comme si l'une fût devenue l'inévitable préparation de l'autre. Puis la vague de douleur se retira, emportant avec elle la volonté qui lui avait été opposée, et ne laissa que la souffrance en sommeiller, à l'affût. Pour la première fois se levait en lui quelque chose de plus fort que lui, contre quoi nul espoir ne prévalait. Contre cela aussi, il fallait pourtant lutter. Ce qui est étonnant, Claude, dans la présence de la mort même lointaine, c'est qu'on sait tout à coup ce qu'on veut, sans hésitation possible. Il se regardait, soumis à ce lien silencieux qui plusieurs fois déjà les avait unis.
Perken s'était assis sur le lit, la jambe étendue. Son regard était redevenu précis, mais chargé de conscience, comme si cette volonté ne se fût pas encore dégagée des regrets qu'elle traînait avec elle. Claude cherchait à le deviner. « Tu veux remonter avec la colonne ?» Perken hésita de surprise. Il n'y avait pas songé. Lestienne, dans son esprit, n'avait pas participé à sa mort. « Non. Maintenant, j'ai besoin des hommes. Il faut que je remonte dans ma région. » Et soudain, Claude découvrit combien Perken était plus vieux que lui. Ni au visage, ni à la voix. Il semblait que les années pesassent sur lui comme une foi, irrémédiablement différent, d'une autre race. Et les pierres. Maintenant, il n'y a rien de pire que ce qui était l'espoir. Parviendrait-il seul jusqu'à ces montagnes ? Rien n'empêchait plus Claude d'atteindre Bangkok. Rien, sinon la présence de la mort. J'irai avec toi. Silence. Comme pour se délivrer de l'empire des rares unions humaines, tous deux regardaient la fenêtre, ébloui par la lumière du dehors qui scintillait sous la natte. Les minutes passaient, brûlées par le soleil immobile. Claude pensait aux pierres abritées sous les toits des charrettes, vidées de la vie qui les avait si furieusement opposées à lui. S'il les laissait au poste, il les retrouverait. Et ne les retrouva-t-il pas? Pourquoi ai-je décidé d'aller avec lui? Il ne pouvait pas l'abandonner, le livrer à la fois à cette humanité dont il le sentait à jamais séparé et à la mort. L'exercice de cette puissance qu'il ne connaissait pas l'attirait comme une révélation. Surtout, c'était de telles résolutions, d'elle seule, qu'il nourrissait le mépris qui le séparait de toutes les acceptations des hommes. Vainqueur ou vaincu, il ne pouvait, en un tel jeu, que gagner en virilité, qu'assouvir ce besoin de courage, cette conscience de la vanité du monde et de la douleur des hommes qu'il avait si souvent vu informe chez son grand-père. La natte s'écarta sans bruit, jetant dans la pièce un tourbillon d'atomes triangulaires. Il lui sembla que ses raisons se perdaient, légères et dérisoires, dans cette masse d'air, qu'il ne connaîtrait jamais de lui-même que sa volonté. Pieds nus, un indigène apportait un télégramme, la réponse provisoire reçue par le chef de poste. Préparé cantonnement, base d'action, colonne répression, 800 hommes mitrailleuses. 800 hommes, dit Perken, ils veulent pacifier la région. Jusqu'où? Même si je ne l'avais pas choisi, il faudrait que je retourne là-haut. Et ils emportent des mitrailleuses, eux. Ça rentra. Monsieur, il y en a voir femme. Moyen de trouver pour moi aussi? Demanda Claude. Moyen. Tous deux sortirent. Deux femmes se tenaient à droite de la porte. La même hostilité arrêta Perken devant les fleurs de la plus petite et devant son visage aux lèvres douces. Il détestait maintenant la langueur. Il fit signe à l'autre de venir avant même de l'avoir regardée. La petite partit. L'air était suspendu, comme si le temps se fût arrêté, comme si le tremblement des doigts de Perken eût seul vécu dans le silence soumis à l'immobilité asiatique de ce visage, au nez courbe et fin. ce n'était ni le désir ni la fièvre, bien qu'il sentît à l'intensité de ce qui l'entourait qu'elle montait. C'était le tremblement du joueur. Ce soir, il ne craignait pas l'impuissance, mais malgré l'odeur dans laquelle il plongeait, il était repris par l'angoisse. Elle s'étendit, déshabillée, son corps sans poils et flou dans la pénombre, marqué par l'infime naissance du sexe et les yeux auxquels il restait attaché, pas encore là d'y chercher en vain la prenante déchéance de la nudité. Elle les ferma pour fuir la domination qui naissait de ses sentiments inexplicables, habituée au désir des hommes, mais fascinée par l'atmosphère qui naissait dans cet absolu silence du regard qui ne quittait plus le sien, elle attendait. Contrainte par les coussins à desserrer légèrement les jambes et les bras, la bouche entrouverte, elle semblait créer son propre désir, appeler l'assouvissement par la lente ondulation de ses seins. Leur mouvement envahissait la chambre, répété, semblable à lui-même, plus actif chaque fois qu'il recommençait. Il descendit en vague, remonta peu à peu. Les muscles se tendirent et tous les creux d'ombre s'élargirent. Dès qu'il passa le bras sous elle et qu'elle dut l'aider, il sentit que la crainte la quittait. Elle prit appui sur sa hanche pour se déplacer légèrement. L'accent jaune de la lumière, une seconde, entoura la croupe comme un coup de fouet, disparut entre les jambes. La chaleur de son corps le pénétra. Soudain, elle mordit ses lèvres, accentuant à l'extrême, par cette infime intervention de sa volonté, l'impossibilité où elle était de réprimer l'ondulation de sa poitrine. À 10 centimètres du visage aux paupières bleuâtres, il le regardait comme un masque, presque séparé de la sensation sauvage qui le collait à ce corps, qu'il possédait comme il l'eût frappé. Tout le visage, toute la femme était dans sa bouche tendue. Soudain, les lèvres gonflées s'ouvrirent, tremblant sur les dents, et comme s'il fût né là, un long frémissement parcourut tout le corps tendu, inhumain et immobile, comme la transe des arbres sous la grande chaleur. Le visage ne vivait toujours que par cette bouche, bien qu'à chaque mouvement de Perken correspondît un grattement de l'ongle sur le drap. Sous le frémissement devenu intense, le doigt tendu dans le vide cessa de toucher le lit. La bouche se ferma comme se fussent abaissées des paupières. Malgré la contraction des commissures des lèvres, ce corps affolé de soi-même s'éloignait de lui sans espoir. Jamais il ne connaîtrait les sensations de cette femme. Jamais il ne trouverait dans cette frénésie qui le secouait autre chose que la pire des séparations. On ne possède que ce qu'on aime. Pris par son mouvement, pas même libre de la ramener à sa présence en s'arrachant à elle, il ferma lui aussi les yeux, se rejeta sur lui-même comme sur un poison, ivre d'anéantir à force de violence ce visage anonyme qui le chassait vers la mort. Quatrième partie, chapitre 1er, page 159. Encore les nuits et encore les jours. La mort à côté, comme Claude, dans la chaleur et les moustiques qui semblaient monter de ce genou lancinant, rouler à travers la forêt par cette torpeur, par cette irrégulière alternance des clairières déchirées et de la végétation qui remplaçait celle du jour et de la nuit, par ce monde où maintenant les nuits s'allongeaient comme les feuilles, où le temps même pourrissait. Les déchirures se rapprochaient, comme si la forêt enfin arrachée eût laissé place à la lumière. mais Perken savait que c'était la grande vallée, qu'une nouvelle vague de forêt retomberait sur son corps fixé, sur sa volonté saccagée, où l'espoir se perdait dans les hurlements des chiens sauvages, dans l'atroce chaleur des piqûres d'insectes. Il avait fait retirer un moment son soulier. La chair était grenat, piquée jusqu'à la limite du cuir comme par un tatouage. Sur la douleur, les démangeaisons, la pourriture, sur le cri sans fin des singes et les branches tordues qu'il retrouvait devant chaque trou de forêt depuis qu'il remontait vers le Laos, vers sa région, la vie des Stiengs chassés emplissait les profondeurs dont elle n'émergeait pas comme une suprême décomposition. Les jarres remises, grabots restitués, dirigés sur l'hôpital de Bangkok, la colonne de répression, emportant ses hommes blessés par les lancettes et les pièges, avait marché sur le village, fait sauter la porte et nettoyé les cases à coups de grenade. Il n'en restait qu'un charnier, des cochons noirs en quête parmi des jarres pulvérisées, des ventres couverts d'animaux. Les Stiengs en fuite balayaient les villages. La colonne qui les suivait perdait beaucoup d'hommes dans la haute forêt, par le poison des blessures surtout. Les miliciens traitaient les malades abandonnés par les grenades, les blessés par les baïonnettes. La migration creusait la forêt comme la lente ruée des animaux vers les points d'eau. Elle la remontait vers l'est sans troubler sa surface froncée, mais au soir, de longues lignes de feu dans l'air immobile, droite, indiquaient l'arrêt de la marche épique des tribus sur la fuite sans fin des arbres. Fin de la deuxième piste de la quatrième cassette, page 160, La Voix Royale, par André Malraux.